Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos rendez-vous avec Alliance Vita, avec l'émission Vive la vie, nous allons aujourd'hui parler d'euthanasie avec trois invités, Camille, Joseph et Carmen. Bonjour à tous les trois.
Bonjour
Bonjour.
Sandra.
Bonjour.
Bonjour à tous et merci de nous accueillir encore une fois. Nous sommes donc effectivement tous les trois, Camille Bouillier, je suis responsable des Vita Jeunes, Joseph Sessou, qui lui est délégué départemental pour Alliance Vita dans le Val-de-Marne, ainsi que Carmen, Vita Jeune. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du programme d'Emmanuel Macron face à la fin de vie, l'euthanasie et la dignité humaine. Nous allons donc évoquer ces questions ô combien douloureuses de la fin de vie et ces enjeux très importants qui touchent à la loi ou aux projets de loi qui peuvent arriver sur l'euthanasie. C'est une question à laquelle les Français sont généralement très sensibles, qui les angoisse, cette question de la fin de vie. Et les réponses apportées par les politiques ne sont pas toujours, selon Alliance Vita, les plus ajustées. La séquence électorale présidentielle s'est achevée. Et après une drôle de campagne, Emmanuel Macron a donc été réélu pour 5 ans. Ses déclarations récentes, ses promesses en faveur de la législation sur l'euthanasie, légalisation de l'euthanasie, ainsi que quelques sondages IFOP sur la fin de vie, nous laissent craindre une évolution de la loi dans un sens qui ne respecte pas la dignité humaine et la valeur de la vie. Les soins palliatifs, qui sont pourtant une réponse adaptée à ces problématiques de la fin de vie, sont encore trop peu développés en France, trop peu connus. Et les récentes affaires sur les conditions de vie des personnes âgées dans les EHPAD, révélées donc à la faveur de quelques scandales, ainsi que tout ce que la crise sanitaire a pu révéler aussi de l'isolement des personnes âgées, tout ceci nous laisse un peu craindre qu'une solution, entre guillemets, de facilité soit trouvée par le législateur avec le choix de l'euthanasie. Toutes ces questions ont conduit donc à une intensification du débat sur la fin de vie dans les médias, les familles, les partis politiques et le monde de la santé également. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous allons d'abord essayer de définir cette pratique de l'euthanasie et de mieux comprendre aussi quels sont les problèmes éthiques qu'elle pose au regard de la dignité humaine. Pour en parler avec nous, du coup, et discuter ce matin, Joseph et Carmen. Joseph, tout d'abord, donc qu'est-ce que l'euthanasie? Quels sont les risques et les dérives probables que cette pratique pourrait engendrer?
Merci Camille, bonjour chers auditeurs. Comme vous savez, les mots ont un sens et beaucoup jouent en général sur la sémantique et des tournures subtiles pour orienter l'opinion dans une direction donnée. C'est quoi l'euthanasie? En fait, il s'agit d'un acte dont l'intention est de provoquer la mort chez une personne qui en formule la demande. C'est une action ou une omission ayant pour intention et comme résultat de provoquer la mort pour éliminer toute souffrance. Elle suppose l'intervention d'un tiers, c'est le cas aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, alors que le suicide assisté, c'est la personne elle-même qui accomplit le geste, c'est le cas en Suisse. Dans les deux cas, le critère fondamental est celui de l'intention de mettre fin à une vie, peu importe les méthodes utilisées. Il peut s'agir tout simplement d'un acte précis, injection létale, administration de substances, ou d'une abstention délibérée de traitement ou de soins indispensables à la vie. Interrompre l'alimentation et l'hydratation d'un patient, surtout s'il n'est pas en fin de vie, peut relever ainsi d'une réelle intention euthanasique. Alors, quels sont les risques? Quels sont les risques ou les conséquences d'une loi sur l'euthanasie qui ne tiendrait pas compte justement de l'ensemble de ces données dont on vous parle? C'est qu'il y a un gros risque, en fait, que cela devienne la norme. Si on met en place une loi sur l'euthanasie qui ne respecte pas la dignité en fin de vie, le risque, c'est que cela devienne une norme. Dès les premières paroles d'une personne âgée, parlant de terminer sa vie, eh ben, cet acte d'euthanasie lui sera appliqué. Comme le témoigne une personne atteinte de Parkinson, pour lui, c'est comme avoir un pistolet sur la table de nuit. Aussi, c'est le risque pour la famille de pousser justement les malades sous la pression du corps médical à faire cet acte. Ensuite, par exemple, un homme en EHPAD était poussé par sa femme. Elle a désormais l'interdiction de venir le voir et ce dernier culpabilise moins. L'autre risque, c'est que ça peut être une porte ouverte à de nombreuses dérives, comme l'euthanasie de toutes les personnes fragiles, telles que les personnes handicapées et les personnes âgées, considérées du coup comme inutiles pour la société. Également, ça peut être l'autre risque, ça peut être aussi la rupture du lien de confiance soignant-soigné, et cela conduit également à une forme d'incompatibilité avec les soins palliatifs qu'il est nécessaire d'administrer pour les personnes en fin de vie.
Merci Joseph pour ces définitions. On voit bien en effet donc tous ces risques, ces dérives, et qu'on pourra aussi observer tout à l'heure lorsqu'on évoquera les autres pays qui ont déjà légiféré sur le sujet. On parle beaucoup de dignité, mais nous ne sommes pas les seuls à en parler, puisque les tenants de l'euthanasie évoquent aussi ce terme. Alors je me permets donc un petit point sur cette notion de dignité. On entend donc des militants parler du droit à mourir dans la dignité. C'est d'ailleurs le nom du principal lobby en faveur de l'euthanasie, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et nous, chez Alliance Vita, et puis tous ceux qui défendent la vie, nous parlons évidemment de cette dignité humaine qui doit être défendue. Alors, quelle est-elle ? La Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cette dignité, nous le croyons, est intrinsèque à l'homme du fait qu'il est homme. C'est souvent notre regard qui peut, non pas donner, mais révéler à l'autre sa dignité, qui peut également la restaurer, mais aussi l'abîmer. Ce qui est indigne, c'est d'enfermer quelqu'un dans l'image de celui dont la vie ne vaut plus rien. Cette expression donc de mourir dans la dignité, c'est l'arme fatale des militants de l'euthanasie, puisque selon eux, trop d'infirmité, la dépendance au corps médical ou à des aidants, à des proches, l'impossibilité de faire certaines activités qu'on pouvait pratiquer dans sa jeunesse, toutes ces infirmités, toutes ces blessures effacent la dignité de l'homme. C'est bien pour nous, nous le croyons, en acte qu'il faut prouver que tout patient reste digne d'être soigné et aimé. On voit ici l'importance de la relation. La personne ne demande pas forcément l'euthanasie parce qu'elle souffre trop, mais bien souvent parce qu'elle manque de relations et de chaleur humaine, parce que tout simplement ce regard posé sur elle n'est plus celui d'un autre être humain qui la croit digne et qui lui montre qu'elle est digne. Cette idée de dignité, donc, chez les partisans de l'euthanasie, est maquillée en l'idée de mourir pas trop vieux pour ne pas être comme un légume, et ne pas trop souffrir. Mais en réalité, la réflexion du patient est souvent tout autre. Les questions de l'abandon de sa famille ou de ses proches, peut-être le regard que lui porte le personnel soignant qui lui fait comprendre qu'il est un poids, ce sont plutôt ces souffrances-là qui poussent certaines personnes à réclamer une fin de vie plus rapide. Il arrive donc régulièrement que des personnes âgées demandent la mort. Mais c'est en réalité souvent un appel à l'aide pour attirer l'attention et cesser d'être affreusement seul. Ainsi, nous voyons bien qu'il s'agit avant tout de redonner à l'autre ce sentiment de dignité, de lui prouver à nouveau qu'il est digne de vivre, d'être aimé, et qu'il a donc toute sa place au sein de la société. Nous voyons donc un peu plus clair maintenant ce qu'est l'euthanasie, ce qu'est la dignité, son importance. Si nous nous attachons maintenant à voir un petit peu l'évolution de la loi en France, nous allons voir avec Carmen les différentes lois qui ont été votées dans les précédents quinquennats, mais également voilà, les évolutions de la loi sur la fin de vie jusqu'au premier quinquennat de M. Emmanuel Macron. Quelles sont donc, Carmen, les grandes lois, les grandes affaires et les programmes des présidents précédents sur la fin de vie ?
Bonjour chers auditeurs, en ce qui concerne les grandes lois, il faut noter les trois dates suivantes. Le 9 août 1999, la loi dit que toute personne malade dont l'État le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Ensuite, en 2005, intervient la loi Leonetti qui interdit l'acharnement thérapeutique. En 2016, c'est la loi Classe Leonetti qui a permis la rédaction de directives anticipées, la désignation d'une personne de confiance et le recours à la sédation profonde et continue. Poursuivons avec les programmes présidentiels. Sous Chirac, en 2002, son ministre de la Santé, Jean-François Mattei, a réaffirmé son opposition à l'euthanasie qui constitue, selon lui, la mauvaise réponse à des questions de souffrance, de solitude et d'abandon. Je cite « Si l'on autorisait l'euthanasie, on lèverait un des interdits fondateurs de nos sociétés. J'observe d'ailleurs que, dans les pays qui ont adopté l'euthanasie, dans des conditions très particulières, la plupart des cas d'euthanasie se font en dehors du cadre légal. Sous Sarkozy, en mars 2007, il se prononçait pour le respect de la vie dans la mesure où la souffrance ne rend pas la vie impossible. Il y a des limites à la souffrance humaine, dit-il. Je cite « Je ne pense pas que cette question se règle par une loi. Comment voulez-vous qu'un texte recense tous les cas de fin de vie ? Je veux que l'on fasse confiance au dialogue. C'est aux patients, à sa famille et au corps médical de trouver la solution la plus adaptée. Je pense qu'il faut donc laisser une zone de liberté. » Donc, il ne souhaite pas légaliser l'euthanasie. Enfin, Hollande, en 2014, promet son programme, de faire appliquer l'euthanasie pour certaines maladies sous certaines conditions.
Merci Carmen. On voit un petit peu effectivement l'évolution, l'hésitation des candidats, des présidents tout au long de ces quinquennats. Et ça nous révèle effectivement que cette question de la fin de vie est quand même très très complexe, très épineuse, très délicate, et qu'ils ont parfois du mal à se prononcer. Néanmoins, effectivement, François Hollande a fait certaines promesses, et on va le voir également, Emmanuel Macron voilà, se prononce aussi sur le sujet. Très rapidement, puisqu'on n'a pas forcément le temps de parler de toutes les affaires qui ont émaillé le débat sur la fin de vie, on peut noter au moins ce que révèlent ces grandes affaires. On connaît bien sûr surtout l'affaire Vincent Limbert. Il y a également un autre jeune homme, Vincent Imbert, devenu tétraplégique et dont la mère avait demandé à Monsieur Jacques Chirac l'autorisation qu'il puisse, enfin voilà, de demander l'autorisation de la mort pour son fils. Ces affaires très médiatiques émaillent donc un débat qui est complexe, que les Français maîtrisent mal, et on voit bien que tout ne se règle pas dans la loi. Il y a beaucoup de cas particuliers. Il est très, très, voilà, très compliqué de s'attacher à définir un cas général. Néanmoins, nous allons voir rapidement, donc avec Joseph maintenant, ce qui a concrètement changé pendant ce premier quinquennat du président Macron. Joseph.
Merci. Alors, pendant le premier quinquennat Macron, il y a eu des reports successifs de la loi sur le grand âge et l'autonomie annoncée dès 2017 par le président Macron. La première partie des travaux confiés au philosophe Fabrice Zille, directeur adjoint de l'espace éthique d'Île-de-France, a été présentée en février 2021 sous le thème « Quelle éthique dans les établissements qui accueillent les personnes et les citoyens âgés ?» Les conclusions des travaux ont été synthétisées le 2 septembre 2021 avec l'apparition d'une charte éthique et d'accompagnement du grand âge. La rédaction de ce texte s'est appuyée sur le témoignage d'environ 4350 contributeurs, personnes âgées, aidants familiaux et proches aidants professionnels du secteur, des bénévoles, des citoyens intéressés par ces questions. On peut voir très rapidement que pendant le premier quinquennat, pas vraiment de grandes avancées. Tout passe par des sondages un peu biaisés et des témoignages pour embarquer l'opinion dans une direction émotionnelle. Alors, quels sont les engagements pour le quinquennat qui s'ouvre? Le deuxième quinquennat de Macron, dans son programme, on peut noter des points positifs. Possibilité pour les malades en fin de vie de pouvoir choisir de rester chez eux. Un service de maintien à domicile et une prime, la fameuse prime ADAPT, jusqu'à son 10% des coûts des travaux d'adaptation. Plus de présence des aides à domicile, 2 heures de convivialité par semaine assurées pour les personnes âgées. Un recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires dans les EHPAD d'ici 2027, soit environ 25% de plus qu'aujourd'hui. On peut noter également l'accompagnement du deuil en simplifiant au maximum les démarches pour les familles et une grande consultation autour du statut de l'aidant. Ça, ce sont les points positifs. Pour les points d'attention éthiques, lancer une convention citoyenne comme le propose le président Macron sur la fin de vie, qui associera citoyens spécialistes de l'éthique et différents professionnels. Emmanuel Macron a dit, à propos de la fin de vie, « Je vous donne un avis personnel parce que je pense qu'il faut un débat dans la société sur un tel sujet. Je suis favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge. » Ça, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron en déplacement à Fouras le 31 mars 2022. Cela sous-entend, comme vous pouvez le deviner, une dépénalisation de l'euthanasie, écartant bien évidemment le modèle suisse. Il faut ajouter une déclaration du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui dit, je cite, « Le droit de mourir dans la dignité sera la grande réforme sociétale du nouveau quinquennat. » Emmanuel Macron, n'a pas pris d'engagement sur ce point, mais dit que le sujet avait été mis sur la table avec les membres du Conseil national éthique au moment de la loi bioéthique. On s'est interrogé, détaille le chef de l'État, « Je n'avais pas de mandat spécifique démocratique pour faire cela et il n'y a pas de consensus dans la société », reconnaît le candidat à sa réélection, actuellement président de la République.
Merci. En effet, toutes ces déclarations, tout ceci est assez inquiétant sur le sujet de la fin de vie, puisqu'on le sait bien, les paroles d'un président ont un poids, même s'il ajoute que son avis est personnel. Parler d'une évolution vers le modèle belge, quand on voit ce qui se passe en Belgique, c'est très inquiétant. Néanmoins, on peut se poser quand même cette question, est-ce qu'on a de sérieuses raisons de craindre que ces lois soient votées, que cette législation se fasse, ou est-ce qu'on peut compter sur peut-être un débat et un ralentissement grâce à des citoyens qui seraient opposés, ou alors est-ce que cette loi même est tout à fait utopique, entre guillemets, dans son application?
Alors, le mot d'ordre, c'est alerte. Restez en alerte. Il y a de grandes chances que le Comité consultatif national d'éthique fasse barrage, mais ce dernier a souvent refusé des points éthiques importants pour finalement les accepter. Quelques années plus tard, un exemple, la PMA, il avait donné le comité un avis négatif en 2005, puis positif en 2017. Concernant la congélation des ovocytes, avis négatif en juin 2017, puis positif en septembre 2018. Donc, il faut être vraiment très vigilant et noter qu'en juin 2021, le Conseil national éthique s'est auto-saisi justement des questions éthiques liées à la fin de vie et Alliance Vita avait été auditionnée dans ce cadre en octobre 2021 et a rappelé que quelle que soit la situation, l'interdit de tuer, fondateur de notre société, est moteur de la créativité nécessaire pour améliorer l'accompagnement des personnes fragiles. Donc attention, chaque fois que l'interdit de tuer est remis en débat, des personnes en souffrance psychique demandent, et on peut comprendre, d'en finir. La société doit absolument sécuriser le message qu'elle leur adresse. La prévention du suicide ne souffle pas d'exception et aucun citoyen n'est indigne de vivre et d'être soigné. Aucune maladie ne rend éligible à l'euthanasie. Au contraire, les plus éprouvés doivent être les plus soutenus, accompagnés dignement et en toute bienveillance jusqu'au terme de leur vie.
On évoquait donc ces lois qui nous pendonnaient en France et Joseph nous a donc alerté sur les avis qui peuvent donc varier assez rapidement, les avis proposés par le Comité consultatif national d'éthique qui est censé être l'organe garant de l'éthique en France. Et on a vu qu'il avait pu changer d'avis assez rapidement et en fait laisser passer un glissement vers moins de respect de la vie et de la dignité humaine. Alors, en France, donc, la loi n'est pas encore votée, mais dans plusieurs pays assez proches de nous, nous avons déjà des exemples quand même très concrets et très parlants. On peut imaginer donc l'évolution qui pourrait se produire, l'évolution d'une loi sur l'euthanasie, sur la fin de vie, en créant des parallèles avec d'autres pays qui se disent même plus avancés, mais évidemment, nous pensons que c'est un recul de civilisation. Nous avons notamment les Pays-Bas, la Belgique ou encore un petit peu plus loin le Canada, qui vont être des exemples assez parlants. Donc Carmen, quels sont les points importants, mais aussi les dérives que l'on peut déjà voir dans ces pays?
Alors que peut-on craindre? Quel risque majeur au regard de ce qui se passe ailleurs, en Europe et dans le monde? Alors, en ce qui concerne les Pays-Bas, donc la loi a été votée en 2001. La loi n'a pas bougé depuis 2001, mais l'interprétation est de plus en plus extensive. C'est une loi euthanasie pour personnes démentes, très âgées, avec de troubles psychologiques. De ce fait, il y a eu une forte pression pour autoriser le suicide assisté des plus de 70 ans, sans autre motif que l'âge et la fatigue de vivre. Ce qui a entraîné de plus en plus d'euthanasie au détriment des soins palliatifs, un nombre croissant de cliniques spécialisées dans l'euthanasie, la création d'équipes volantes avec pour spécialité euthanasie, avec un objectif de 1000 euthanasies par an, qui intervient quand le médecin de famille a refusé l'acte. Environ 53 000 médecins ont critiqué cette méthode car l'équipe volante ne connaît pas suffisamment les patients pour juger leurs envies ou stabilité psychologique. En 20 ans, le nombre d'euthanasies est multiplié par 3, ce qui correspond à 4,2% des décès par an, avec de fortes pressions pour le suicide assisté des personnes âgées de plus de 70 ans au motif de fatigue de vivre. On a aussi le cas de la Belgique, dépénalisée donc en 2002. La législation est étendue en 2014 aux mineurs sans limite d'âge. Et en 2018, le ministère belge de la Santé propose que l'euthanasie soit définie comme un soin de santé. Et enfin, au Canada, où la loi a été légalisée en 2016, avec la suppression du critère de fin de vie, en 2021, les personnes physiquement handicapées ou atteintes d'une maladie chronique non terminale sont désormais éligibles à l'euthanasie, avec risque qu'en 2023, cela soit étendu aux handicapés mentaux. Donc, en résumé, le risque est très élevé qu'avec la dépénalisation de l'euthanasie, en France, on assiste aux mêmes dérives que chez nos voisins. Les personnes âgées, personnes handicapées, moteurs, risquent d'avoir la pression de leur famille pour mettre fin à leur vie en demandant aux médecins de les sédater. Et le risque est encore pire avec des personnes atteintes de maladies mentales qui pourront, à cause de la tutelle de leur famille ou de la décision des médecins, être euthanasiées si elles prennent trop de temps, d'énergie et d'argent à leur famille. Certains pourront alors décider si leurs proches peuvent vivre ou mourir en fonction de critères plus ou moins flous, comme l'acharnement thérapeutique.
Merci pour ce tableau peu réjouissant. Très rapidement, on le voit effectivement, même si tous ces pays qui légifèrent et qui légalisent l'euthanasie ou le suicide assisté prétendent encadrer très strictement la loi, le cadre de cette pratique, on voit que très rapidement, évidemment, les dérives arrivent avec l'extension de la loi à des personnes qui ne sont pas en fin de vie, qui ne sont pas atteintes d'une maladie terminale, qui ne sont pas très âgées, mais simplement fatiguées de vivre, lassées. Et enfin, évidemment, avec les handicaps, on voit les dérives énormes. Si une personne prend trop de temps, d'argent à la famille, à la société, et qu'on la juge moins digne de vivre, elle pourrait donc être euthanasiée, et c'est déjà le cas ailleurs. La vraie question n'est donc pas celle de supprimer les souffrances des personnes en fin de vie, mais bien de savoir quel sens on veut donner à ces vies, quelle place on veut donner à la dignité humaine, et quel temps on veut choisir de prendre pour toutes ces personnes plus fragiles. Face aux risques et aux dérives de cette pratique de l'euthanasie, quelle solution humaine, Joseph, peut-on trouver à cette angoisse bien réelle de fin de vie ?
Merci. Chers auditeurs, je vais vous parler des solutions Vita pour une fin de vie vraiment digne. Pour Alliance Vita, les solutions se résument en une seule phrase. Il s'agit de développer la solidarité intergénérationnelle. De quoi s'agit-il ? Premièrement, un élan de solidarité à encourager. Souvenez-vous, pour la première fois dans l'histoire des sociétés modernes, il a été décidé de donner la primauté à sauver des vies sur le fonctionnement de l'économie. Au cours de cette période que nous avons tous vécue, deux constats peuvent être établis quant à l'expression de cette solidarité. D'une part, l'arrivée d'une population de bénévoles plus jeunes que ceux habituellement engagés dans les structures d'aide organisées. D'autre part, la multiplicité des formes d'action et d'aide avec un développement notable de solidarité, de voisinage non organisé et fondé sur la proximité. C'est donc cette orientation-là qui mérite aujourd'hui d'être fortement encouragée, de telle façon que des personnes jeunes ou moins jeunes viennent à discuter régulièrement avec des personnes situées dans un rayon assez proche de chez elles pour les aider, en toute bienveillance. Deuxièmement, l'urgence de créer du lien social senior et jeunes en souffrance. déjà cruellement mis en lumière au moment de la canicule de l'été 2003, l'isolement des personnes seniors s'est renforcé avec la crise sanitaire. Selon les petits frères des pauvres, 720 000 seniors n'ont eu aucun contact avec leur famille pendant le confinement. 13% ont ressenti de la solitude de façon régulière. 15% des plus de 60 ans ne seraient pas sortis pendant cette période-là. Et d'après l'Observatoire national du suicide en 2020, les personnes de plus de 75 ans se suicident deux fois plus que le reste de la population. Donc il y a urgence. Et l'urgence doit être de briser l'isolement d'un trop grand nombre de personnes en France, quel que soit l'âge, et de créer autour d'elles un lien social. Et à ce titre, le Vita Tour d'Alliance Vita est un très bon exemple. Troisièmement, l'insuffisance de la politique du vieillissement. Il est temps, je peux dire sur ce point, il est temps de repenser le modèle d'accompagnement de nos aînés. Que voulons-nous pour eux? Quels sont les moyens alloués? Le modèle des EHPAD et l'industrialisation du prendre soin sont remis en cause. Il faudra donc encourager le développement d'autres modèles plus petits, des maisons accueillant par exemple 8 personnes âgées, intégrées dans une vie de quartier, pour que la qualité de la relation soignant-soigné et le vivre avec soit au cœur du dispositif. Quatrièmement, finaliser une loi grand âge et dépendance. C'est vraiment le point clé, la partie la plus importante. Le vieillissement progressif de la population lié à l'accroissement considérable de l'espérance de vie et des conséquences majeures sur les grands équilibres économiques et culturels ont provoqué chez les personnes âgées des situations pénibles. Mais toutefois annoncée et tout aussi fréquemment repoussée, cette loi est plus que jamais nécessaire, comme la crise Covid est venue nous le rappeler. Quatrième point, renforcer la lutte contre le suicide. Souvenez-vous, comme vous le savez, chaque année, 9000 personnes et femmes mettent fin à leur jour dans notre pays et 200 000 font une tentative de suicide. Le grand public voit comme une fatalité. Si quelqu'un veut se tuer, il y arrivera de toutes les façons. En réalité, on peut toujours agir. On peut toujours agir, disent souvent les personnes. Les études nombreuses montrent que si on tend la main à ceux qui sont en difficulté, si on les accompagne, ils ne se suicident pas. Et on peut ainsi éviter les morts sociales. Point suivant, c'est réaffirmer le refus de l'euthanasie et du suicide assisté. L'aide médicale au suicide ou euthanasie, même lorsqu'elle est limitée aux personnes en fin de vie ou en maladie terminale, peut conduire les personnes handicapées ou âgées à vouloir mettre fin à leur vie. Il faut le savoir, un peu plus d'un Français sur deux, soit 55%, cite une réponse en lien avec l'accompagnement, dont 38% le fait d'être accompagné par des proches. Ils sont également une petite moitié à mentionner comme priorité le fait de ne pas subir de douleur, 48%, et de ne pas faire l'objet d'un acharnement thérapeutique, environ 46%, tandis que pouvoir obtenir l'euthanasie n'est cité que par 24% des personnes. Ensuite, il faut créer une commission d'enquête parlementaire sur les conditions dans lesquelles on meurt en France. C'est important de le savoir. Dans ces conditions, et alors que certains demandent déjà une nouvelle loi sur la fin de vie, il convient de mieux appréhender comment les Français meurent, isolés ou entourés, à leur domicile ou en institution, avec ou sans souffrance, subitement ou d'une longue durée, avec ou sans assistance médicale, en bénéficiant ou pas des soins antidouleurs. Ça, c'est important de le savoir. Dernier point, c'est développer l'accès à tous les soins palliatifs. Deux tiers des patients qui devraient bénéficier d'une prise en charge en soins palliatifs n'y ont pas assez. Et ça, c'est grave. Il faut donc garantir l'accès de tous aux soins palliatifs en développant l'offre de soins partout sur le territoire. Pouvoir choisir ou finir sa vie, développer des soins palliatifs à domicile et diffuser la culture palliative parmi les soignants et la population. Je n'oublie pas qu'il faut également créer le droit absolu de visite pour les malades et les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissement.
Merci beaucoup Joseph pour ces solutions, ces paroles pleines d'espérance sur finalement toutes les petites actions ou les plus grandes actions que l'État peut mener. pour lutter contre ces angoisses de fin de vie. Ces angoisses sont légitimes, sont évidemment répandues, mais la réponse à apporter n'est pas, selon nous, celle de l'euthanasie, celle de supprimer tout simplement la vie. Ce qu'il faut supprimer, c'est l'isolement, c'est l'angoisse, c'est un regard qui peut-être n'est pas le plus ajusté sur les personnes, et supprimer évidemment, lorsque cela est possible, la souffrance, la trop grande souffrance. Et pour cela, la médecine a quand même permis beaucoup de choses. On a donc des soins qui peuvent atténuer cette souffrance, et peut-être en permettant une fin de vie plus adoucie, peut-être plus courte également. Mais si l'on prend les moyens et si l'on arrive à faire venir les proches, la famille, à recréer du lien social, cette fin de vie est souvent plus apaisée. Et les personnes, y compris celles qui demandaient l'euthanasie dans un premier temps, témoignent très souvent de la beauté de ces derniers moments passés avec leurs proches. L'importance du lien intergénérationnel aussi, évoquée donc par Joseph. Et là, c'est effectivement un point positif de cette crise sanitaire qui a vu se lever des initiatives et qui a donc souligné l'importance extrême de ce lien intergénérationnel. On peut noter également le développement de crèches liées à des EHPAD qui permettent donc aux jeunes enfants de côtoyer des personnes âgées et qui en fait voilà, apportent un peu de joie à ces personnes âgées, mais également des belles rencontres à ces jeunes enfants. Avec Alliance Vita, nous abordons ce nouveau quinquennat avec énergie, motivation et espérance. Parfaitement conscients des immenses défis qui se présentent à nous et que nous avons tâché ce matin de vous présenter également. Avec ténacité et créativité, nous invitons à la mobilisation générale pour peser ensemble sur le monde politique, mais aussi pour infuser une véritable culture de vie au service des plus fragiles, au service de la justice, de la fraternité et du respect inconditionnel de la dignité humaine. Pour Alliance Vita, continuer d'éclairer le débat et de porter la lumière, malgré les vents contraires, sera une priorité de tous les instants dans les mois qui viennent. Après des années d'empilement de lois transgressives, que nous avons également évoquées aujourd'hui, ne nous laissons pas gagner par la tentation du « à quoi bon ?». Il peut être facile, en fait, de se laisser porter par cette tentation et de considérer que nous avons déjà perdu le combat. Mais le véritable changement politique et culturel commence en chacun de nous, en chacun de vous également. Le grand malheur de cette société moderne, écrivait Bernanos, c'est qu'elle s'organise pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine y suppléer par la technique. Elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. Nous en sommes témoins chaque jour avec nos équipes. Il nous faut espérer pour agir, et agir fait espérer. Comme l'écrivait encore Bernanos, l'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme.
Nous avons reçu un message de Monique. Alors c'est simplement un remerciement. Voici donc son message. Bonjour et grand merci pour cette belle et réconfortante émission. J'ai 83 ans et la terrible solitude est pour moi merveilleusement comblée par Radio Maria qui m'accompagne tout au long du jour dans la joie. C'est signé Monique de Dordogne. Et nous venons de recevoir également un message d'Anna. J'écoute votre émission avec attention. La question, savez-vous exactement qui est en face de vous? Avez-vous bien conscience que le quinquennat qui arrive sera le pire socialement et que vous devez peut-être endurcir votre combat car le président n'est pas du tout un homme de dialogue et d'écoute? Donc c'est l'avis personnel d'Anna. Voilà donc les deux messages que nous avons reçus.
Merci beaucoup Sandra et nous remercions Monique pour son beau message qui nous donne aussi de l'espérance dans le combat. Et nous entendons également le conseil d'Anna, merci à elle. Effectivement, nous avons bien conscience que sous des dehors peut-être volonté de dialogue ou de grand débat, ce quinquennat qui approche est porteur de grands enjeux, et notamment sur cette question de la fin de vie. On peut le voir d'ailleurs avec quelques raisons qui nous ont un peu quelques points qui nous ont un peu alertés dans le projet de convention citoyenne sur la fin de vie qui est évoqué par le président Emmanuel Macron. Tout d'abord, on l'a évoqué rapidement, l'abandon de la loi grand âge et autonomie qui est prévue dans cette convention, alors qu'on le voit bien, la lutte contre la mort sociale des personnes âgées dépendantes et l'accès à des soins palliatifs de qualité sont de vraies urgences humanitaires. C'est une partie de la réponse, selon nous, à ces angoisses de fin de vie, ces angoisses et parfois ces désirs de mort. Nous avons également des raisons de nous inquiéter avec une manipulation prévue de la participation, évidemment. On a l'expérience douloureuse des états généraux de la bioéthique il y a quelques années, mais également de la Convention citoyenne sur le climat. Et ces expériences nous disent que, certes, il y a une incitation à participer, on écoute, soi-disant, voilà, on communique. Mais en fait, quand le résultat ne plaît pas, le président tranche en réduisant énormément le processus participatif pour finalement aller dans le sens prévu depuis le début. Donc c'est un petit peu une marionnette, une poupée plutôt une illusion, cette convention citoyenne, puisqu'en réalité, quelle que soit la vie des citoyens, la loi pourra aller dans le sens prévu dès le début. Et on a évidemment le paravent qui est bien faible et bien léger du Comité consultatif national d'éthique, qu'il prépare actuellement un nouvel avis évoqué par Monsieur Macron et le CCNE qui travaille toujours sur des cas limites, sur l'idée d'exception. Et en fait, on le voit bien, le précédent belge montre que c'est l'exception à l'interdit de tuer qui a fait basculer vers une pente glissante et vers une situation aujourd'hui effrayante. Joseph, oui. Tu voulais ajouter quelque
oui.
chose.
Oui, je voudrais juste rassurer notre auditrice que Alliance Vita est vraiment totalement mobilisée. Nous avons même actuellement prévu d'aller rencontrer, il y a une centaine de bénévoles d'Alliance Vita qui vont rencontrer tous les députés sortants et en liste pour les sensibiliser justement à l'Assemblée nationale pour que toutes les personnes et tous les députés qui iront dans la nouvelle législature soient porteurs du message de bienveillance et soient vraiment vigilants pour que les lois qui seront votées respectent la dignité en fin de vie. Ce travail est en cours actuellement et je voulais juste rajouter ça.
Oui, merci. Effectivement, on est bien conscient de tout ça et il est essentiel, nous le croyons, et nous le faisons à chaque nouvelle élection, de rencontrer le plus possible tous ces candidats et tous ces députés, tous ces élus, pour tâcher d'apporter notre voix et d'avoir une véritable action au service de la vie. Il faut savoir également que Alliance Vita, donc dans ses porte-paroles, ses délégués, comme Tuc Dualderville, Caroline Roux ou encore Blanche Streb, sont régulièrement auditionnés, donc leur expertise est malgré tout reconnue, on peut avoir cette petite espérance, reconnue, et ils sont écoutés au sein de diverses assemblées ou de groupes de travail. Mais évidemment, nous avons de douloureuses expériences sur un grand nombre de ces sujets bioéthiques, et nous restons mobilisés, et nous espérons que vous l'êtes aussi, dans la mesure du possible, pour défendre toujours la vie et la dignité humaine.
Eh bien, merci beaucoup Camille, Joseph et Carmen donc pour nous avoir parlé de ce thème très important aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.